Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble des extraits d'un roman, Le Bar des Afrançados. On est plongé dans un pays basque, Euskadi, qui est devenu indépendant. Avec, bon, sa propre culture, ses tensions politiques et puis une histoire assez réécrite.
Oui, tout à fait. Et on suit le parcours d'une jeune femme, Maïté, de Bayona. Sa vie est, vraiment imprégnée par ce nationalisme basque très fort. Mais il y a aussi des éléments assez surprenants, comme vous disiez, une concession chinoise en plein Bayona, des gardes écossais, c'est assez dépaysant d'emblée.
Notre but aujourd'hui, c'est un peu de décrypter, à travers ces extraits, les thèmes principaux. L'identité culturelle, la manipulation de l'histoire et puis la désillusion personnelle vue par Maïté. Alors, allons-y.
Oui, alors dès le début, on est dans cette Euskadi où l'histoire officielle, elle a été complètement revisitée. On apprend que les Basques auraient découvert l'Amérique bien avant Colomb, qu'ils auraient vaincu Napoléon pratiquement seul, inventé le tungstène. Enfin, Maïté grandit avec ça, quoi. C'est enseigné à l'école, célébré tout le temps.
Oui, on sent cette fierté presque obligatoire. Mais vous parliez d'une fissure, les Afrançados. C'est qui, précisément, dans ce roman ?
Maïté, au début, choisissent de parler français ou castillan, alors que l'euskara est la langue nationale obligatoire. Donc ils sont mis à l'écart, un peu marginalisés. Ça montre déjà que l'unité qu'on affiche, elle n'est pas si solide. D'ailleurs, on voit aussi des tensions internes, comme des Navarrais qui manifestent pour leur propre indépendance au sein même du Euskadi.
D'accord. Et le voyage que Maïté fait hors du Euskadi, ça semble être un moment clé pour elle, non ? En Bretagne, en Alsace ?
Ah oui, absolument. C'est fondamental. Ces voyages la mettent face à d'autres réalités, d'autres nationalismes régionaux aussi, d'autres langues, d'autres histoires. En Bretagne, Braise, comme ils disent là-bas, elle découvre pas seulement les tensions autour du Braisonnais, mais aussi un groupe armé, le FLB, qui, assez paradoxalement, milite pour garder l'enseignement en français, peut-être vu comme une langue pour communiquer face à ce pouvoir central euskarien qui est perçu comme dominant. Donc tout ça, ça commence à la faire douter, disons.
Et c'est là que ça devient particulièrement intense, je trouve. Parce que ces expériences, elles la préparent un peu au choc. La rencontre à Paris avec son grand-oncle, Antoine.
Exactement. Antoine, c'est l'exilé type, un afrançado dans tous les sens du terme. Et lui, il va méthodiquement lui démonter tous les mythes fondateurs du Euskadi. Il lui raconte la vraie histoire de son propre grand-père, Jacques Sarmendaritz, célébré comme un héros national, alors que, bon, Antoine révèle un passé beaucoup moins glorieux, y compris un passage en prison.
Ah oui, et l'exemple peut-être le plus fort, c'est celui des cinq martyrs, non ? C'est quand même la base du panthéon national.
Oui, et là, c'est brutal. Antoine sort des documents, des preuves. Il lui montre que ces soi-disant martyrs, morts pour l'indépendance, en fait, c'était surtout des petits délinquants, morts dans des bagarres, des accidents. Rien d'héroïque. Toute l'histoire a été fabriquée pour servir le pouvoir. Et ça, ça montre avec quelle facilité, déconcertante parfois, on peut construire une identité nationale sur des mensonges, même énormes, si on les répète assez.
On imagine le choc pour Maïté, c'est « Ah, c'est terrible !» Et cet Antoine, il a même écrit un livre, « Les Afrançados », pour dénoncer tout ça. Et il lui révèle aussi que des figures culturelles comme La Fontaine, qu'on a rebaptisée Joannès Ituri, sont en fait des appropriations culturelles, tout simplement.
Tout à fait. Et la question qui se pose alors, c'est « Qu'est-ce qui reste de ton identité quand tu découvres que son socle historique est faux ou manipulé ?» C'est vertigineux. Le parcours de Maïté, c'est aussi la difficulté de jongler entre toutes ces langues. Le skara, le brogenègle, le sassiche, le français. Et même cet uriquin, une espèce de jargon artificiel un peu bizarre. Et puis, il y avait cette amitié d'enfance avec Mei, la fille du gouverneur chinois de la concession. Déjà là, peut-être sans s'en rendre compte, elle avait une fenêtre sur autre chose. Une altérité au cœur même de sa ville.
Donc, si on essaye de résumer un peu... Ces extraits, ils nous montrent vraiment cette tension permanente entre un récit nationaliste très fort, très construit, presque, oui, totalitaire dans sa façon de fabriquer l'histoire, et le cheminement personnel de Maïté vers une vérité beaucoup plus complexe, nuancée et souvent, décevante. Les Afrançados, du coup, ils deviennent un symbole fort de cette dissidence, de cette complexité.
Exactement. Et si on prend un peu de hauteur, ce roman, il utilise cette Euskadi de fiction comme une sorte de laboratoire, en fait. Pour questionner comment toutes les identités nationales se construisent. Ça montre les dangers de ces récits trop simples et la violence, même symbolique, de la manipulation historique. La désillusion de Maïté, au fond, elle est assez universelle. C'est le moment où on réalise que le monde dans lequel on a grandi, il repose sur des fables.
Alors, qu'est-ce qu'on en retient? Ces extraits nous laissent avec cette question forte sur le poids des histoires qu'on nous raconte, officielles, familiales, et sur la difficulté, parfois la douleur, de s'en détacher pour trouver sa propre voie, sa propre vérité.
Oui, et peut-être une dernière pensée pour nos auditeurs. Dans quelle mesure les récits historiques qui nous entourent, même dans notre réalité, hein, pas dans la fiction, façonnent notre vision du présent et notre sentiment d'appartenance? Qu'est-ce qui se passe en nous, individuellement, collectivement, quand ces récits fondateurs sont remis en cause ou se révèlent être des constructions, un peu comme Maïté le découvre? C'est une réflexion qui va, je crois, bien au-delà de ce livre.